enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Amis auditeurs, bonjour. La prédication est intitulée « Enfin ». Chaque fois que ce terme est utilisé, il signifie beaucoup de choses. Très souvent, il signifie un soulagement. Il sous-entend aussi quelquefois que le doute a commencé à s'installer parce que l'attente a été longue. C'est le moment où la promesse de Dieu devient réalité et palpable. C'est ainsi qu'on loue Dieu pour ses bienfaits. Écoutons maintenant le pasteur Dallo. Excellente condition d'écoute à tous.
Qui a besoin d'entendre les paroles, non pas celles d'un homme, mais d'entendre des paroles qui viennent de toi. Et de toi seul, honneur, louange, majesté et splendeur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de lire avec moi ce matin, dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel, dans son chapitre 5e, et nous lirons les 5 premiers versets. 2 Samuel, chapitre 5. Et nous lisons les 5 premiers versets. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, j'aimerais bien souligner cela, tu l'as su d'avance, tu étais au courant. Dieu te l'a fait comprendre. Dieu a imprimé cela dans ton cœur. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras les chefs d'Israël. Seigneur, donne-nous des hommes à qui Dieu a dit des choses, non seulement de croire en ces choses, non seulement de les tenir, mais de savoir surtout que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il est capable, il a la force nécessaire d'amener en exécution ce que sa bouche a eu à promettre. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et sur tout Juda. Je voulais prendre comme thème ce matin ce petit mot, ce tout petit adverbe, enfin. Enfin. Chaque fois que ce terme est utilisé, il signifie beaucoup de choses. Il signifie un soulagement. Par rapport à une attente qui a été longue, par rapport à une espérance que l'on avait et qui a tardé à se concrétiser. Quand finalement cette espérance se concrétise, on peut dire, enfin. Nous attendions un visiteur, mais voilà l'heure à laquelle il était censé venir est passée. On essaie de l'appeler, on ne sait pas, va-t-il venir? Et puis à la fin on attend, toquer à la porte, enfin, il est là. Nous avions faim et la cuisine tardait à être prête. Et puis finalement, quelqu'un sort de la cuisine et dit, la nourriture est prête. On dit, enfin. Soulagement. Parce qu'il y avait une attente. Enfin. Signifie aussi que quelquefois les doutes ont commencé à s'installer à cause d'un retard ou d'un décalage dans la concrétisation de quelque chose. Quand ce mot est utilisé, la pensée qui est cachée derrière, c'est qu'à un moment, l'attente a été tellement longue entre la promesse et son accomplissement. Et peut-être qu'entre les deux, il y a eu toutes sortes de pensées. En 69, j'étais encore un petit garçon. Après que les Américains essayaient de faire plusieurs tentatives d'envoyer l'homme sur la Lune avec beaucoup d'échecs, Pour petit garçon en bandage, j'ai suivi à la télévision ces hommes qui marchaient comme s'ils volaient. Enfin, cet appareil s'est posé, ça s'est ouvert, et l'homme a posé les premiers pas. Et les journaux, le lendemain, ont écrit, enfin, l'homme a marché sur la lune. Enfin. Et je prie par la grâce de Dieu que des hommes et des femmes qui sont dans cette salle ce matin, qui ont des attentes, qui ont des choses qu'ils attendent de la part de Dieu, je prie que dans quelques domaines, dans quelques situations, je ne sais dans lesquelles, que vous puissiez bientôt dire, enfin, quand vous allez palper la concrétisation, quand vous allez toucher la chose espérée, quand la promesse qui était mot, parole deviendra réalité. Et David venait de l'expérimenter. Cela faisait des années qu'il a su qu'il allait être roi. Les prophètes le lui avaient dit. Il est passé par toutes sortes de péripéties. Il a cru même à un moment qu'il ne va pas y arriver, qu'il n'allait plus y arriver. Jusqu'au jour où à Hébron, où il s'est caché, l'on est venu le chercher. Et j'essaie de m'imaginer combien chaque geste, chaque chose faite était marquée du sceau de l'émotion et sûrement des larmes. David, c'est à toi de monter maintenant à Hébron. Tu vas t'asseoir sur ce trône qui était propriété de Saül. Et alors qu'on le met, d'abord on met l'onction sur sa tête. On les place sur un cheval et sur sa route, les gens crient « Vive le roi !» Il n'en revient pas. Et quand il arrive dans le palais royal et que les portes sont ouvertes, il entrevoit le trône au loin, ce trône au pied duquel il venait autrefois chanter pour Saül, mais pour lequel Dieu lui avait dit « Ça sera ton trône !» Et quand il avance, j'essaie de m'imaginer, quand il s'assied sur ce trône, il s'est dit « Enfin, finalement, c'est arrivé. Je ne sais à quoi tu t'attends, mais j'aimerais dire à quelqu'un, bientôt tu vas dire, enfin. Tu le diras avec larmes, tu le diras en pleurant, mais tu diras quand même, enfin. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais en Boujimaï, j'ai vu une jeune dame que j'ai connue il y a plusieurs années, 20 ans de mariage, sans enfant. Et Dieu sait dans nos familles africaines, quand ces choses arrivent, tout ce qu'elles ont subi. Elle m'a dit, pasteur, les jours où je suis allé voir le médecin, et il m'a dit, j'ai l'impression que cette fois-ci, c'est le bon. Il dit, je n'y ai pas cru. Quand vous avez tellement échoué, vous ne croyez même plus quand Dieu fait quelque chose. Quelqu'un est allé lui dire, non, tu as une grossesse nerveuse. Tu as tellement désiré, tu as tellement pensé à la chose. Alors le corps a déclenché un processus imaginaire mais réel. Elle a dit, je suis passé par l'échographie. On m'a dit, c'est un garçon. Je lui ai dit, je n'y croirai que quand je le verrai. On m'a dit, pasteur, il y a des choses que je ne peux t'expliquer. Parce que toi, tu t'es marié, 10 mois après, tu as eu un enfant. Elle dit, quand dans cette maternité, entourée par des sages-femmes et les médecins, j'ai vu un bout de chair être sorti de moi, et j'ai entendu un cri. J'ai dit, est-ce moi? Elle dit, quand je l'ai tenu entre mes mains, j'ai dit, il y a un Dieu. Enfin. Qu'est-ce que l'attente a été longue. Et je lui disais, seul Dieu peut savoir ce qui se passe dans le cœur de celui qui a beaucoup attendu, dans le cœur de celui qui à un moment a commencé à douter, dans le cœur de celui qui, des fois, s'est posé la question, est-ce que cela va arriver? Abraham est passé par ses chemins. Promesse, il avait. Mais voilà, Sarah a tardé. Avoir l'enfant de la promesse arrivé, Dieu sait ce qui s'est passé dans leur cœur quand finalement ils ont tenu les petits Isaac. Seul Dieu peut expliquer ce que Joseph a dû ressentir dans son cœur quand, après plusieurs années, où il a vu en songe quelque chose que Dieu lui avait montré. Et Dieu l'a même répété à deux reprises différemment. Les fonds étaient les mêmes, même si la forme était différente. Mais voilà, entre-temps, il est passé par toutes sortes de situations qui donnaient presque l'impression que ce que Dieu avait promis ne va plus se passer. Psaume 105, versets 18 à 21 dit, « On serra ses pieds dans des liens et on les mit au fer. » Une autre version dit, « Le fer traversa son âme jusqu'au temps où arriva ce que Dieu avait promis. » Les dominateurs ordonna de les délivrer. Le dominateur de peuple les fit relâcher et il établit chef de sa maison. Il le nomma gouverneur de tous ses biens. Et quand Joseph entra dans cette dimension de saisir ce que Dieu a promis, il eut deux enfants et donna à ces deux enfants des noms significatifs. Le premier, il le nomma Manassé, qui veut dire « Dieu m'a fait oublier ma souffrance ». Seigneur, fais oublier à quelqu'un sa peine. Seigneur, je t'en supplie. Fais oublier à quelqu'un les choses qui l'ont fait pleurer. Essuie ses larmes et que ce vieux souvenir plein de larmes devienne quelque chose de lointain. Vous savez, quand quelquefois vous avez tellement souffert et que Dieu vous visite et que votre situation et votre condition changent, quand vous regardez en arrière comme au travers d'un rétroviseur, vous vous demandez, suis-je vraiment passé par ces chemins? Dieu m'a fait oublier, a dit Joseph. Et le second enfant qu'il a eu, il a appelé du nom d'Éphraïm, j'aime cela, qui veut dire « Dieu m'a rendu fécond, mais où ? Au pays de ma souffrance. Dieu m'a fait prospérer, là où même j'ai eu à souffrir. Seigneur, fais-le pour quelqu'un. Fais-le pour quelqu'un. Fais-le pour quelqu'un. » Seul Dieu pouvait mesurer ce que les Israélites ont ressenti dans leur cœur. Quand les eaux de la mer Rouge, plutôt les eaux du Jourdain, se sont fendues, et ils ont traversé, et que leurs pieds ont touché le sol des Canaan, le pays promis, le pays rêvé. Leurs pères leur ont parlé de ça. Vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. C'était une idée. Ils se sont imaginés toutes sortes de choses, jusqu'au moment où, enfin, la promesse est devenue terre ferme. La promesse est devenue réalité palpable. Ils ont compris que la bouche de Dieu, ce qu'elle déclare, est vérité et véridique. Enfin. Dans les psaumes 126, verset 1er, les psalmistes disent « Quand l'Éternel... » dire « Pensez-moi, je n'y crois pas. » Et pourtant, c'est vrai. 70 ans, ils sont restés en captivité. La promesse était là, vous allez revenir. Mais comment? Et Dieu suscita un homme, Cyrus, qui décida que le peuple devait rentrer. Et quand ils étaient en route vers Jérusalem, les uns ont connu seulement Jérusalem de nom parce qu'ils sont nés en captivité. Et quand ils sont rentrés dans cette cité, ils ont pu dire « Enfin !» Et j'aime la suite quand ils disent « Alors, notre bouche a été remplie des cris de joie. » Vous savez, quand Dieu agit en votre faveur, que vous le vouliez ou non, vous chantez pour lui. Et notre langue des chants d'allégresse, la version du semeur dit ceci, « Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. » Parce que Dieu nous a visités, parce que Dieu a changé les choses. J'aimerais vous dire ce matin, bien-aimé, il avait dit « Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. » Il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un moment où Dieu dit à la souffrance, au problème, au mal, il dit, vous irez de là, jusque là, pas plus loin. Et tout s'arrête. Seigneur, fais-le pour quelqu'un, avant qu'il ne soit à bout. Fais-le pour quelqu'un, avant que sa foi ne défaille. Mais ils ont non seulement dit que leur bouche était remplie de cris de joie, ils ont dit aussi, alors, l'on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Quand Dieu agit en notre faveur, les autres les voient. Mais ils ajoutent aussi, alors nous-mêmes nous disions, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Et les psalmistes ajoutent, ceux qui sèment avec larmes, moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. J'ai souvent vu en cet endroit, quand j'ai béni quelques mariages, de jeunes filles dans la joie, des larmes perlées, parce que enfin, la promesse de Dieu est devenue réalité. Je me souviens de cette jeune fille dont les mariages ont été combattus par toutes sortes de moyens d'obstacles. À un moment, on se disait, ça ne va plus se concrétiser, jusqu'où l'adversaire le plus coriace devient les complices. Il y a un Dieu au ciel. Celui que la Bible appelle le maître des temps et des circonstances. Celui qui tient toutes choses entre ses mains. Dans Luc chapitre 2, au verset 25 à 31, la Bible nous relate l'histoire d'un homme. Et il est peu dit concernant cet homme, mais en même temps, il est beaucoup dit les concernant. Il est dit ceci. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme, il était juste et pieux. Mais on ajoute une chose que j'aime beaucoup. Il attendait la consolation d'Israël. C'était un homme qui vivait avec des attentes. Frères, sœurs, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez de demain? Il avait dit, il attendait la consolation d'Israël. Et la Bible ajoute qu'il avait été divinement averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Comment avait-il été averti? La Bible n'en parle pas. D'autres versions suppose ou insinue que peut-être il avait eu un songe. Mais dans tout le cas, il savait qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le Christ. Et la Bible dit, un jour, poussé par l'Esprit. Vous savez, le jour où Dieu vous visite, le ciel ne sera pas rouge. Le jour où Dieu décide que ce qu'il avait déclaré se concrétise pour vous, il n'y aura pas une journée de 26 heures. Ça sera une journée normale. Qui commencera peut-être sans un signe particulier, mais c'est le jour J. La Bible dit, poussé par l'Esprit, cet homme se présenta au temple alors que l'on a mené le petit Jésus. Et j'aime ce que la Bible dit. Quand il toucha le petit, il dit ceci, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé d'avance. » Siméon pouvait dire en je l'avais rêvé, je l'avais désiré. Je m'étais imaginé que ces jours allaient arriver, comment ça allait être. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de m'imaginer, j'ai la réalité entre mes mains. Ce que j'ai entre mes mains, c'est ce qui était promesse. Enfin. Et ce que Siméon a dit, vous et moi, du moins si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous le dirons un prochain jour, quand la trompette va sonner. Et qu'à la voix d'un archange, d'abord les morts en Christ seront ressuscités, ils seront changés. Nous aussi, changés avec eux, nous irons à la rencontre du Maître. Et quand nous serons dans cette cité pavée d'or, nous dirons, enfin nous y sommes. Enfin plus de combats, enfin plus de luttes, enfin nous sommes chez nous. Enfin à la maison. Mais avant de dire enfin, dans quelques domaines, j'aimerais nous parler de trois choses importantes concernant la marche par la foi. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de marche par la foi sans risque. Pas de marche par la foi sans un risque. Marcher par la foi, c'est un risque. Le fait pour nous d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, en abandonnant un style de vie et en croyant qu'un jour nous vivrons dans cette félicité, c'est un risque. J'ai discuté un jour avec un ami intellectuel, c'est un libre penseur. Il ne croit ni à Dieu ni à l'enfer et dit Roland, supposons que tu as fait tous ces sacrifices et que tu meurs, et que tu te rendes compte que derrière c'est les grands néants, il n'y a ni enfer ni ciel. Que vas-tu faire? Il dit sûrement tu vas regretter, tu vas dire retournons sur terre et que je vive différemment. Je lui ai dit j'ai pris un risque, mais je sais que j'ai fait les bons choix. Pas de marche par la foi sans risque. On ne vérifie jamais que ça marche tant qu'on n'a pas osé. Des fois, la marche par la foi, c'est un peu comme ce parachutiste qui est lancé partant de son avion, mais qui sait Qu'est-ce qu'il a derrière son dos va s'ouvrir à un moment quand il va actionner quelque chose. Rien ne le rassure. Son assurance est basée sur le fait que j'avais tout vérifié. Il est possible que ça ne marche pas, mais lui, il sait que je dépends de cela. Des fois, il fait des mètres, jusqu'à un moment, il actionne et puis, pouf, ça s'ouvre. Mais je voudrais vous dire, avec notre Dieu, ça marche toujours. Ça marche toujours. La marche par la foi est toujours associée des risques. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, la Bible dit d'Abraham, c'est par la foi que lors de sa vocation, il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit, je suis frappé par cela, sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait, mais il savait au moins avec qui il marchait. Je crois simplement à quelqu'un qui m'a dit, quitte ton territoire dur en Chaldée, qui m'a promis, dit, je ferai de toi une grande nation. Ceux qui te béniront, je le bénirai. Ceux qui te maudiront, je le maudirai. Je rendrai ton nom grand. Il a cru en cette parole. Et il s'est avancé. Pas de foi. Son risque est véritable. Il y a plusieurs années, un pasteur nous a fait énormément du bien ici. Il était au Katanga, il avait une petite église et il a reçu distinctement un message de la part de Dieu lui disant « J'aimerais que tu puisses aller travailler pour moi dans la ville de Rome, en Italie. » Et vous connaissez quel genre de mouvement religieux il y a là-bas et surtout à Rome. Il a fait tout ce qu'il fallait, il est venu avec sa famille ici à Kinshasa, il a laissé sa femme et ses deux enfants. Il a dit « J'aimerais partir en précurseur jusqu'à ce que je puisse avoir les choses stables et vous allez me suivre. » Il dit, il est allé deux mois après, permettez-moi les termes, c'était la galère. Il a essayé de faire telle démarche, il s'est cogné comme contre un mur. Et dit, à un moment, j'avais perdu tout ce que j'avais comme petit montant entre mes mains. Je commençais à dormir dans les gares de métro. Et quand le soir, on venait distribuer la soupe populaire, je prenais avec eux. Il dit, j'étais assis avec les clochards et je me regardais, je dis, ça c'est moi ou ce n'est pas moi. Et pourtant, Dieu m'avait dit. Il dit, un jour, j'ai décidé, j'ai dit, avant que mon billet ne puisse expirer, je vais retourner au Congo. Il dit, j'ai discuté avec un jeune clochard congolais qui était aussi de l'autre côté. Il m'a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit, Dieu peut nous prêcher même par la bouche des gens sans Dieu. Le petit clochard lui a dit, vous savez, les Kinois m'appelaient les gens vieux. Il dit, vieux. Mais moi, sans Dieu, je n'arrive pas à fuir. Il sait, toi, pasteur, tu veux fuir. Il dit, c'était une prédication. Il a décidé, il dit, je resterai. Et deux semaines après, sur la route, il prêchait à un homme. Et cet homme lui a dit, ton message m'a touché, mais pourquoi tu es à un tel endroit? Il lui a expliqué son parcours. Il dit, viens, nous allons commencer une petite cellule chez moi et je vais te loger. Ils ont commencé. Et six mois après, il est venu ici, il nous a prêché, dit, quand je quitte maintenant Rome, j'ai laissé que nous nous réunissions dans une grande salle et nous sommes 600 personnes. Et je suis venu chercher ma femme et mes enfants. Enfin. Et prendre ces risques n'est pas donné à tout le monde. Parce que sur le chemin de la foi, on peut se casser les dents, et bien se casser. Deuxième chose concernant la marche par la foi, c'est que la marche par la foi n'exclut pas la présence d'obstacles. La foi ne signifie pas que tout ira comme sur des roulettes. La foi ne signifie pas que tout sera un boulevard tapissé de bénédictions, une ligne droite. La foi signifie quelquefois des zigzags. La foi signifie quelquefois naviguer à vue, sans boussole ni carte. Où le capitaine ne maîtrise rien. Il est là, capitaine. Mais le bateau est dirigé par les vents. Il ne contrôle plus rien. La marche par la foi, c'est ça quelquefois. Dans Exode chapitre 5, versets 21 à 23, la Bible nous parle de la réaction de deux catégories de personnes, les commissaires des enfants d'Israël et de Moïse. Moïse avait reçu la révélation de Dieu au pied de la montagne. Et quand il a reçu cette révélation, Dieu lui a dit, « Va et tu feras sortir mon peuple d'Égypte. » Et par deux signes, Dieu lui a confirmé la véracité de cette chose. Et Moïse est allé, il a trouvé d'abord Aaron, son frère, et il a fait les mêmes signes et Aaron a adhéré. Finalement, il est allé à Goshen, Il a trouvé le groupe des enfants d'Israël. Il leur a parlé de ces choses. La Bible dit, le peuple tomba par terre et se prosterna en disant, l'Éternel nous a donc visités. Et puis il est allé parler au Pharaon, sûrement avec beaucoup d'assurance. Souvent nous attendons que ce que Dieu nous promet lundi va s'accomplir mardi. Quand il a fini de parler au Pharaon, le Pharaon l'a laissé partir. Et le Pharaon a signé un décret, il a dit, désormais, on ne donnera plus de paille aux enfants d'Israël. Mais ils ont l'obligation de produire la même quantité de briques. Souffrance! Et les enfants d'Israël ont commencé à souffrir. Ils étaient tapés, ils étaient maltraités. Et quand ils sont allés voir les pharaons pour dire, mais pourquoi vous nous faites ceci? Pourquoi vous nous enlevez la paille et vous nous obligez à produire la même quantité? Le pharaon leur a fait comprendre, c'est parce que vous croyez aux rêveries de Moïse. Et juste alors qu'ils sortaient de chez les pharaons, la Bible dit, ils rencontrèrent Moïse. Écoutez les propos qu'ils ont tenus à Moïse. Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge entre nous. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. C'est comme s'il veut dire, Moïse, même si nous étions en captivité, mais nous étions mieux. Jusqu'à ce que tu viens dire, l'Éternel a dit. Et voilà ce que ton Éternel a dit nous produit. Écoutez la réaction de Moïse. La Bible dit, Moïse retourna vers l'Éternel. Et combien en tant que serviteur de Dieu, souvent nous connaissons cela. Et il dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi m'as-tu confié une mission aussi ingrate? Pourquoi m'as-tu laissé aller faire espérer un peuple et tu ne leur accordes pas ce que tu as promis? Pourquoi? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des pourquoi pour lesquels n'auront pas toujours des parce que. Parce que Dieu seul maîtrise tout. Pourquoi? Et Moïse ajoute, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ses peuples. Et toi, tu n'as pas délivré ton peuple. Obstacle sur la route de Moïse. Mais le même Moïse plus tard, par sa main toute puissante, il frappera les eaux de la mer Rouge et les eaux vont s'effondrer. Israël traversera à pied sec. Ce que Dieu promet, il finit toujours par l'accomplir. Mais pour voir, troisième chose, concernant la marche par la foi, pour voir les résultats qu'une marche par la foi peut produire, il y a deux ingrédients principaux. Premièrement, ne point se relâcher. Bien que des fois, tout nous pousse à nous relâcher. Tout pousse à abandonner. Et deuxièmement, persévérer. Tenir ferme, aller jusqu'au bout, ne rien relâcher, dire Seigneur, je veux aller jusqu'au bout avec toi. Et l'un des passages que j'aime, c'est dans Hébreux chapitre 6, verset 11 au verset 18. Merveilleux passage. Et j'aime ce que l'apôtre dit. Il dit ceci, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, un, par la foi, deux, par la persévérance, héritent des promesses. Et du verset 13 au verset 18, il dit des choses merveilleuses qui me laissent sans parole. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même. En général, quand les gens jurent, ils mettent au-dessus d'eux une autorité qui peut sévir ou qui peut les ramener à la raison s'ils ne tiennent pas parole. Or, Dieu n'a personne au-dessus de lui. Il avait dit, Dieu, quand il s'engage, il jure par lui-même. Dieu jura par lui-même. Le verset 14 dit, il dit, certainement, j'aime beaucoup ce terme, notre Dieu, c'est un Dieu de certitude. Certainement. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Enfin, que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. C'est notre seul refuge. Nous avons simplement saisi cette espérance qui nous a été proposée. Et David était de ceux-là. La chose qui se concrétise alors qu'il est intronisé, alors qu'il est placé à la tête du pays, ça ne s'est pas passé du coup. Tout est allé des fois de travers. Il a dû douter, il a dû se poser des questions. Est-ce que finalement ça va s'accomplir? Tout avait commencé 13 ans en arrière, lorsque le prophète Samuel, sous la direction de Dieu, est venu dans la maison familiale, parce que Dieu lui avait dit qu'il avait rejeté Saül et que David, plutôt, il avait choisi quelqu'un de la maison d'Isaïe, les Bethlémites. Et quand il est arrivé là-bas, on a fait passer tous les enfants en revue. Mais le prophète n'a pas su trouver l'homme voulu par Dieu. Jusqu'à ce qu'on lui dise, il y a quelqu'un qui est resté. J'aime ce que le pasteur Guy Amani avait dit un jour ici. Dieu peut travailler pour nous sans nous. Dieu peut prendre nos intérêts en main sans que nous ne soyons là. Ils ont dit, il y a un, mais un tout petit, quantité négligeable. L'homme de Dieu a dit, je ne partirai pas sans l'avoir vu. Et à peine ce petit garçon de 16, 17 ans arrivé, l'Esprit de Dieu a dit, c'est lui. Et le temps que ces jeunes hommes puissent comprendre, il a vu, on a pris la corne d'huile, et il savait ce que cela signifiait. Et lui, il a coulé sur sa tête. Et l'homme de Dieu a prononcé ces paroles, que les prophètes prononçaient chaque fois. Il a dit, Israël, voici ton roi. Promesse ferme de la part de Dieu. Quelques temps plus tard, il tue le grand Goliath, cet homme d'une taille imposante. Désormais, il a des entrées au palais royal. Il fait partie de la cour du roi. Il devint l'ami du prince Jonathan. Et même, il finit par épouser la princesse Michal, sœur de Jonathan. Tout se passe bien. Il réalise que Dieu est de son côté. Combien c'est fantastique quand Dieu promet. Et puis subitement, les vents deviennent contraires. Il ne maîtrise plus rien. Il ne contrôle aucun paramètre. Il lui semble que tout va de travers. Dans 1 Samuel 18, versets 10 à 11, la Bible nous dit que le roi Saül prit sa lance et la projeta contre David à deux reprises. Lui qui attendait la royauté, désormais il apprend à faire un exercice à esquiver les lances. Et c'est ça la royauté! Et c'est ça la promesse de Dieu. Mais je me redis, derrière l'élévation, quelquefois, il y a des coups. Mais ce que j'aime, c'est que David ne reprenait jamais la lance pour retourner. Il a appris simplement à faire une chose, esquiver. Dans 1 Samuel, chapitre 19, au verset 1 à 6, la Bible nous parle du complot fomenté contre lui de le faire mourir. Et là, il est aidé par Jonathan, son ami avec qui il a fait alliance. Jonathan fait deux choses. Premièrement, il vient informer David au prix de sa vie. Mais deuxièmement, il joue le médiateur. Lui-même va y faire réfléchir son père. Mais pourquoi tu veux éliminer ce jeune homme? N'est-il pas celui qui met en péril sa vie pour ton armée? Et Saül changea d'avis. 1 Samuel 19, versets 9 à 10, nous parle encore de Saül qui frappa des lances David, mais David s'est détourné encore. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu m'a parlé de la royauté. 1 Samuel 19, versets 11 à 17, nous parle de Michal, la fille de Saül et femme de David, qui a été obligée de faire descendre David en utilisant un fil, descendre par la fenêtre, et puis placer un mannequin sur les lits. Et quand les gens envoyés par Saül pour tuer David sont arrivés, sûrement ils ont voulu poignarder, mais ils ont vu que ce n'était pas un homme, mais c'était plutôt un mannequin. Et pourtant Dieu m'a promis la royauté. Comment je commence à descendre par la fenêtre? Comment je commence à fuir comme ça? Dieu, où es-tu? Le verset 18 de 1 Samuel 19 dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Il est allé se ressourcer auprès de celui qui avait tout déclenché. Sûrement, il est allé le revoir et dit, Samuel, tu m'as parlé des royautés, mais je suis en train de vivre des choses qui sont tout, sauf la royauté et l'élévation que tu as eu à promettre. Il commença à se cacher dans les champs, dans les marécages, à boire l'eau des rosées. Il commença à courir à gauche et à droite. 1 Samuel chapitre 21, verset 10 à 15, nous parle de David qui est obligé de se cacher au pays des Philistins et même de faire les dingues. Permettez-moi les termes. Le verset 13 dit, David se montra comme un fou au pays des Philistins et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. L'homme à qui Dieu a promis la royauté, mais dans sa fuite, son seul refuge, c'est d'aller même chez les ennemis, chez les Philistins. Et là, pour avoir la vie sauve, il doit jouer à l'imposteur, faire le théâtre. On dit, oh, mais il a perdu le bon sens. Mais l'homme qui apparemment a la bave qui coule, c'est l'homme plein de promesses de Dieu. Les vents sont contraires. Dans 1 Samuel chapitre 22, versets 1 à 4, la Bible nous parle encore de David qui s'enfuit et qui se cache dans une caverne appelée Adullam. Et il dit, ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Et tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Quelqu'un a dit, c'est le premier royaume de David. Mais avec des gens à la moralité douteuse. Il est dit d'eux, ils avaient des créances, ils avaient laissé des dettes au pays, ils étaient dans la détresse et il devint leur chef. Le verset 3 dit, dès là, David s'en alla à Mitzpé, dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Il est en train de fuir, Saül est dans la débandade. Il prend ses parents, il les place, il dit, gardez-les jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Tout est incertain. Il sait d'où il vient, mais il ne sait pas où il va. La marche par la foi, quelquefois, c'est ça. Vous ne découvrez pas tout du coup. À chaque pas quand vous avancez, vous voyez la providence divine. À chaque pas quand vous avancez, vous voyez sa main qui tient la vôtre. Et vous savez qu'il est de votre côté. 1 Samuel 23, versets 9 à 12. La Bible nous parle de David qui s'est caché dans une ville appelée Keïla. Et il a pris le projet du roi Saül de descendre là-bas pour lui ôter la vie. Il est dit qu'il consulta l'Éternel en disant ceci, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il contre ton serviteur? Et comme ton serviteur l'a appris, Éternel Dieu d'Israël, donne le révéler à ton serviteur. » La Bible dit, l'Éternel lui répondit, « Il descendra. » Le verset 12 dit, « David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi, et mes gens entre les mains de Saül ?» Et l'Éternel lui répondit, « Ils te livreront. » Et le verset 13 ajoute, « Alors David s'éleva avec ses gens, au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. » Pas où il voulait, où il pouvait. C'était la débandade. Sauve qui peut. Celui qui se sauve comme ça à la hâte, Dieu lui a dit, tu deviendras roi. Plein de promesses, mais en train de fuir, en train de courir. On le regarde bien. Mais où est ta foi? Avec les promesses de Dieu, on peut s'enfuir. Mais on finit toujours par revenir avec le même Dieu. Que les visions derrière lesquelles Dieu se trouve ne meurent jamais. Et c'est sûrement à l'une des occasions comme celle-là, où David courait ça et là sans savoir quelle allait être son avenir, que sûrement il a composé le psaume 31, où il dit au verset 14 et 16, « J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne autour de moi, quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi, je me confie au Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. » Et puis il dit une dernière phrase que j'aime beaucoup. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. C'est toi qui tiens mes destinées. Je ne sais pas par quel chemin vous êtes en train de passer. Je ne sais pas par quelle sorte de situation. Des fois, vous avez honte de vous-même quand vous vous retrouvez avec les amis, les gens avec qui vous avez grandi, vous avez évolué. Quand vous les regardez, vous n'arrivez pas à les dire, vous êtes complexé. Quand vous dites, j'ai Dieu, j'ai sa parole, mais Seigneur, fais quelque chose. J'aimerais vous dire, vos destinées sont entre ses mains. Il a et il aura les derniers mots. Et plus tard, alors que David quitte Keïla à la hâte, il va se cacher dans le désert des Ziph. Et là, Saül ainsi que ses gens viennent. Et la Bible nous dit, ils ont contourné David des deux côtés, à gauche et à droite. De telle sorte que David était pris en sandwich. Et alors que Saül voulait arriver pour lui apporter les stockades, la Bible dit ceci. Alors, un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Et Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appela cet endroit Sela à Maclécot, pour dire les rochers de séparation. L'endroit où Dieu trace un mur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, vos destinées sont entre les mains de Dieu. À cet instant, il était pris en sandwich. David croyait que ça n'était fini avec lui. Mais il y a un Dieu au ciel. Un Dieu qui tient tout, qui contrôle tout. Quel est le chemin par lequel vous êtes en train de passer? Chemin des larmes. Chemin des souffrances. Dimanche après dimanche, vous venez à la borne, bouffe, allons-y. Le cœur n'y est plus tellement. Même quand on chante, on dit bof, chantons. J'aimerais vous dire, il va vous visiter. Je ne sais pas, je le sens fort dans mon cœur, il va faire quelque chose. Et vous pourriez dire comme David, enfin. Soulagé, la tête relevée. Saül est retourné. Mais dans 1 Samuel chapitre 27, au verset 1, là nous voyons David qui est au bord de la dépression. Il est à bout mentalement, psychiquement et même spirituellement. Sa foi est en train de tanguer comme un navire en détresse. Il ne peut s'empêcher de regarder l'avenir avec réalisme. Vous savez, des fois, le réalisme vous ramène sur terre comme la pesanteur. La foi vous pousse à aller au-delà. La foi vous pousse à dire, ça arrivera, même si c'est dur. La foi vous pousse à dire, tiens bon. Mais vous ne pouvez vous empêcher avec les yeux de voir comment cela peut-il arriver. Souvent, nous voulons savoir comment les choses vont arriver. Un peu comme Marie. Quand on est venu lui dire, tu deviendras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle dit, je n'ai jamais connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Il y a des choses qui sont au-delà de notre entendement, au-delà de notre imagination, au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Si quelqu'un pouvait dire à Joseph que tes frères qui sont en train de te vendre, ces chemins de larmes, ces chemins de pleurs, va te conduire vers l'élévation. S'il lui avait dit au départ, il n'allait pas croire. Mais derrière des larmes apparentes peuvent se cacher de grandes bénédictions. Vous n'avez pas encore tout vu. Voilà pourquoi j'aime ce passage qui dit « Toutes choses coopèrent, toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais David, là il est à bout, le réalisme le retient. La Bible dit, David s'est dit en lui-même. Personne ne lui a dit cela. Il est resté, il a réfléchi. Il a dit, soyons réalistes, ayons les deux pieds sur terre. Ne rêvons pas. Sur terre, il y a un qui est fort, c'est Saül. Il a des bataillons, il a des armées. C'est lui qui domine. Moi, je n'ai qu'une petite poignée de gens. Qu'allons-nous faire? Comment pourrions-nous renverser la situation? Non, soyons réalistes. Il dit, je périrai entre les mains de Saül. S'il y a un David ce matin qui pense là, j'aimerais te dire, David, tu ne mourras point. David, Saül ne te tuera point. Ce que Dieu a promis, il va sûrement l'accomplir.
Chers auditeurs, shalom. Qui que vous soyez, quelle que soit votre origine ou votre niveau social et intellectuel, Jésus vous aime tel que vous êtes. Je vous lance un appel aujourd'hui. Donnez-lui votre vie et n'attendez pas demain, car demain, personne ne sait ce qui peut arriver. Acceptez maintenant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si nous pouvons vous aider en cela, appelez-nous s'il vous plaît au 98 64 73 88 98 64 73 88. Jésus vous aime.
Seigneur, par le passé, tu nous as montré ta fidélité, notre Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont descendus dans la fosse qui peuvent célébrer ta fidélité. Mais nous, les vivants, Seigneur, nous voulons raconter tes bienfaits, Seigneur, et comment tu as été fidèle, Seigneur, notre Dieu. Depuis le jour où tu nous as appelés, Seigneur, et que tu as fait ta demeure en nous, Seigneur, jamais, jamais tu nous as délaissés, Seigneur. Et toujours tu as été présent dans nos vies, Seigneur. Dans la détresse, tu as montré ta tendresse. Dans l'oubli, tu t'es montré pour nous un ami. Dans l'abandon, tu as été notre consolation. Dans la frayeur, tu t'es montré plus que vainqueur. Dans la faiblesse, tu as tenu tes promesses. Et dans le désespoir, tu as été notre seul espoir. Dans la solitude, tu as été notre plénitude. Et même dans le néant, Seigneur, notre Dieu, tu as été pour nous présent. Rien n'est comparable à toi et à ta fidélité. Et c'est pourquoi ce soir, nous voulons chanter, Seigneur, et célébrer ta grande fidélité. Alléluia, alléluia, alléluia.
Ta fidélité.
Je célébrerai l'éternel. ne doute pas, mets ta foi en Jésus-Christ, confie-nous en Jésus, notre Sauveur.
Et si t'es là, la solution est en Jésus, car celui le chemin,
la vérité.
Car tu marches dans ses voies, il nous a promis
la vie éternelle.
Verbe qui rit l'éternel, heureux ceux qui se fient en Jésus, car il n'y a rien déçu.
De ma mère, tu as été mon Dieu. Délivre-moi, sauve-moi. Je célébrerai l'éternel à cause de ta justice. Je célébrerai.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un Dieu qui a la solution à vos problèmes. Arrêtez de pleurer. Invoquez Jéhovah Jireh. Il pourvoira vos besoins, car il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur son peuple. Il ne déçoit jamais, jamais. Ne déçois jamais, 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 jamais.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.